Bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin sur les ondes du Diva FM pour mon émission « Alissez-vous ». J'ai manqué à l'appel car le virus du moment a eu raison de moi, mais je reprends avec grande joie ce rituel du vendredi de 17h à 18h pour vous faire franchir la porte de mon cabinet pour aborder des thèmes qui font peut-être partie de votre quotidien. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de l'aliénation parentale en vous expliquant de quoi il s'agit en vous proposant un témoignage poignant. Et comme à son habitude, Jennifer est à mes côtés pour vous représenter en me posant des questions que peut-être vous-même vous vous posez.
Bonjour Alice, oui, vous avez été victime d'une épidémie qui est bien connue, la Covid-19, mais c'est pas grave, on vous retrouve en forme avec un nouveau thème aujourd'hui, heureuse de le partager avec vous. Alors dans cette émission Alice et vous, pendant une heure, nous allons aborder un thème qui forcément pourra peut-être vous concerner à vous et donc peut-être vous éveiller et en même temps prendre conscience de ce que peut être l'aliénation parentale. C'en est même une évocation pour moi-même qui je ne pensais pas du tout à la définition qu'elle était celle-ci, et on va vous l'évoquer tout de suite. Alors Alice, ce thème, pourquoi l'avoir choisi d'abord ?
Pourquoi l'avoir choisi ? Comme vous le dites, c'est un terme qui peut être méconnu, à qui on ne donne pas forcément le bon sens, et c'est un thème malheureusement que je retrouve beaucoup plus fréquemment que l'on croit effectivement dans mon cabinet.
Alors, ça paraît un peu fort ce mot, aliénation parentale. C'est vrai que quand on en a parlé hors antenne ensemble, j'avais cru que c'était une autre définition. Et en fait, je vous allais justement poser sur la table la définition pour qu'on puisse faire bien la différence sur, par exemple, sur ce que moi je pensais. Et j'imagine que d'autres auditeurs peuvent faire la même confusion.
Oui, effectivement. Donc, on va démarrer de suite avec la définition qui est dite concernant ce syndrome d'aliénation parentale. Donc, c'est décrit comme un trouble de l'enfant qui, de manière continue, vit un endoctrinement par un parent à l'encontre de l'autre en le dénigrant perpétuellement. C'est-à-dire que ce syndrome fait vraiment partie des histoires de séparation de couple. Voilà. De comment ça se vit, comment surtout l'un des deux parents le vit. Et malheureusement, c'est l'enfant qui se retrouve au milieu, comme une arme contre l'autre parent. Et bien évidemment, en plus du fait que ce soit triste à vivre, cela crée des dommages, on va dire, assez conséquents sur la construction de l'enfant.
Et bien sûr, puisqu'on se sert à travers nos problèmes de couple, d'un enfant pour être presque le tampon entre les deux et en même temps discréditer un des parents aux yeux de cet enfant. Alors c'est vrai que moi, je ne pensais pas à cette définition-là quand vous parliez d'aliénation parentale. Je poser plutôt la définition de celle qui est de l'influence d'un parent sur la vie, qu'il soit dans l'enfance, mais aussi dans la vie d'adulte, une emprise un petit peu viscérale, si on peut dire ainsi. Et ça n'a rien à voir, en fait, Alice.
Alors, ça n'a rien à voir dans le sens où, effectivement, ça se joue réellement dans une histoire d'ancien couple. Mais par contre, le point commun qu'on pourrait retrouver, c'est que forcément, le parent contrôlant, même sans histoire de séparation, est un parent toxique.
Oui, donc en fait, on n'est pas loin de la définition d'un parent toxique. Il y a des points qui sont similaires, mais ça n'a rien à voir, puisque le parent toxique, c'est celui qui va influencer dans la vie de l'enfance, mais aussi dans la vie de son enfant en tant qu'adulte, sur tous les points, sur ses relations sentimentales, sur sa vie professionnelle, sur tous les thèmes, en fait, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Là, on est vraiment sur un autre sujet. Alors, c'est vrai que ça choque quand on l'entend dire que on se sert de son enfant pour discréditer un autre des parents. Comment ça c'est possible ? Est-ce que c'est malsain quand même, on peut se le dire ? Et est-ce que c'est normal d'en arriver à ces stades-là, Alice, de discréditer comme ça et se servir surtout d'un ou des enfants ?
C'est ça. Alors oui, c'est malsain. Quand je dis ça peut être pathologique, c'est-à-dire que le parent qui met en place cette stratégie est un parent soit déséquilibré, soit dysfonctionnel, ou qui peut avoir une grande rancœur vis-à-vis de la personne avec laquelle il a eu cet enfant et n'est tellement pas réparé, n'est tellement pas apaisé à cause de cette histoire de vie, de séparation, que son but limite ultime va être de détruire l'autre parent par rapport à son ou à ses enfants.
Alors, j'ai envie de vous dire, Alice, quand on se sépare, c'est vrai qu'il y a toute l'animosité, l'amour passe à la haine, et c'est vrai qu'il faut la contrôler. Alors, ça peut paraître presque humain, quelque part. C'est vrai qu'on est là, on se sépare, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des séparations qui se passent très bien, mais c'est vrai qu'il y a certaines qui se mélangent avec la haine, comment blesser l'autre au maximum, surtout quand il y en a un des deux qui en veut le plus à l'autre. Donc quelque part on se dit c'est pas presque humain, alors pas de se servir des enfants, mais d'avoir cette haine.
Alors on va dire que ça peut être une réaction naturelle, de ressentir des émotions négatives vis-à-vis de l'autre parent. Mais par contre, pour moi, il n'y a rien d'humain et de normal, entre guillemets, d'utiliser son enfant. Alors, bien évidemment, on peut quelquefois être dépassé par certaines situations, on peut être touché, on peut être mal et oser laisser sortir des paroles, on va dire, pas très agréables par rapport à l'autre parent. Mais c'est une chose complètement différente de le faire ponctuellement, de s'en rendre compte et de réadapter son comportement par rapport au fait d'avoir un but conscient et précis.
C'est ça la différence.
Complètement.
C'est pas quelque chose qui va nous échapper, qui, par exemple, si on a une dispute avec son enfant, de dire, toi, tu vois, t'es comme ta mère, ou t'es comme ton père, vraiment, t'es bête comme lui, ou je ne sais quelles injures qui pourraient venir à l'esprit de ces personnes-là. C'est vrai que ça pourrait être ponctuel dans un état d'énervement, ou peu importe.
Tout à fait. Ça, c'est important à poser.
Voilà. C'est ce qu'on veut un petit peu en même temps dire, c'est que c'est pas parce que vous l'avez fait que vous êtes forcément.
Un mauvais parent.
Un mauvais parent. Voilà. Ça, déjà, c'était à remettre dans le bon contexte.
Là,
ce que vous faites, la différence, ce que j'entends, c'est d'avoir presque toute une démarche, un but. C'est vraiment de nuire à l'autre parent à travers son enfant. C'est vraiment une démarche, c'est presque comme de la préméditation d'un tueur en série, quoi, vous voyez ?
Ah, mais. Alors, je vous laisse parler,
voyez,
Jennifer.
C'est de la préméditation, en fait, en quelque sorte.
Oui, c'est de la stratégie de la préméditation. Mais c'est-à-dire que ces personnes, finalement, ne sont pas capables ou ne prennent même pas en compte sur ce que leur propre enfant va ressentir au niveau émotionnel. Parce que pour un enfant, d'entendre dire qu'un de ses parents est mauvais et plus toutes les insultes qu'il va entendre à son égard, bien évidemment, il n'y a rien d'équilibrant.
Non.
Et sachant qu'un enfant vient de ses deux parents, il y a aussi le message de dire « Attends, si tu penses ça de papa ou de maman, c'est que quelque part, moi, je suis peut-être comme ça et moi, tu penses peut-être ça aussi de moi. »
Oui, et quand on est dans cette... J'ai envie de dire, c'est presque une stratégie en quelque sorte. Le but ultime, c'est de nuire à l'autre, donc à l'autre parent, à travers son enfant. Mais ça peut passer en dehors de dire des mots un peu familiers ou des injures. Ça peut être plus que ça, j'imagine.
Ah oui, parce qu'on va dire, quand on en est juste au mot destructeur, on va dire c'est...
C'est presque la petite partie de l'iceberg.
C'est ça, c'est la personne qui tente, on va dire, de mettre la main sur son enfant contre sur le parent. Alors, quelquefois, ça marche, quelquefois non. C'est-à-dire qu'il y a des situations où des enfants se retrouvent entre les deux parents. Moi, j'ai des enfants au cabinet qui me disent, quand je suis papa ou chez maman, ils disent quand même du mal de papa ou de maman, donc de l'autre parent, pour faire plaisir aux parents qui tentent l'aliénation. De peur de ne pas être aimé par le parent, on va dire, dysfonctionnel.
Ah, ce que vous voulez dire, c'est que l'enfant participe à ça, mais on va dire de manière consciente pour faire plaisir à son parent qui est en train de dire du mal de sa maman ou de son papa, peu importe. Hein. Mais ils le font juste pour presque avoir de la tranquillité et se dire que
en plus
ça
de la...
fera plaisir à son parent.
En plus de la tranquillité, c'est surtout pour avoir la sécurité de continuer à être aimé par son parent.
D'accord.
D'être
dans le même alignement, dans la même pensée que
voilà.
Son. D'accord. Ouais. Pour ne pas risquer de le perdre.
Tout à fait. Et de ne pas perdre le lien avec son enfant. Il y en a qui sont capables d'aller très loin dans l'acceptation de ce qu'ils vivent chez le parent malveillant pour quand même rester en lien avec le parent.
À ce point.
Ah oui. Donc ça, on va dire, c'est ce qui est moche à dire, mais c'est la partie qui n'est pas la plus difficile. C'est-à-dire que quand on a à faire un parent aliénant, le but, donc, c'est de récupérer, finalement, son enfant dans son camp. Le but va être que l'enfant déteste l'autre parent. Mais jusqu'où ça peut aller ? Est-ce qu'on veut simplement le détester ou est-ce qu'on veut mettre en place, simplement, quelquefois, une garde exclusive pour, finalement, punir l'autre parent ? De ne plus voir son enfant, jusqu'à aller faire des enlèvements ou des raptes d'enfants dont on va parler tout à l'heure.
D'accord. Donc oui, ça va vraiment très loin.
Ça peut aller très loin quand on est vraiment dans l'aliénation parentale pure et dure.
C'est vraiment une manipulation de l'esprit, en fait, de son enfant, puisque, en plus de ça, c'est l'affection, l'affect qui se met au milieu de tout ça. Parce que, comme vous êtes en train de dire, c'est un enfant qui n'a pas envie de perdre l'un ou l'autre de ses parents, donc va coller au dire du parent malveillant. Alors, c'est vrai que ça paraît sans cœur hein, de dire tout cela, que ce parent malveillant arrive à avoir tant d'influence et tant manipuler un enfant, alors que cet enfant-là veut juste... Déjà qu'il est dans une situation compliquée, la séparation, en plus de cela, devoir gérer ce conflit et être au milieu et essayer de faire un peu de tampon des deux parents, quoi. C'est ça qui est fou. C'est tellement dur pour un enfant.
C'est ça qui est compliqué. C'est que déjà, l'enfant doit vivre à accepter la séparation de ses parents, ce qui est bien sûr qui est compliqué hein, pour tout enfant de parents séparés, mais en plus de devoir porter, on va dire, ce poids. Se dire, ok, si papa déteste maman, si maman déteste papa, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais et comment je m'y retrouve au milieu. Donc, après, j'ai des chiffres qui disent qu'il y aurait 10% d'enfants qui seraient touchés par ce syndrome d'aliénation parentale. Ces chiffres, pour moi, sont éloignés de la réalité. Parce qu'on en parlera après, il y a le côté justice, il y a la loi qui est là. Qui a du mal à reconnaître ce syndrome. C'est-à-dire que nous, on va dire, dans nos pratiques de tous les jours, on peut voir ce qu'il se joue réellement. Mais il est vrai que ce terme n'est pas accepté par toutes les classifications, on va dire, psychiatriques internationales. Voilà.
Mais après, peut-être parce que ce mot-là ne serait pas peut-être adapté dans le sens où ça serait juste quelques injures pour, comme on le disait en début d'émission, juste si le parent va dire « oui, ton papa c'est méchant, maman est méchante », ils vont dire « oui, ça va, on va pas l'accepter en tant qu'aliénation ». Peut-être qu'ils vont attendre qu'il y ait un degré bien plus important, Alice, non ?
Oui, tout à fait, mais ce qui est dommage, c'est quand le degré important arrive, c'est déjà
trop tard.
Très tard pour l'enfant, parce que ça crée des dysfonctionnements, on va dire, psychiques. Ça peut être des enfants qui deviennent hyper violents, malgré eux, comme des enfants qui sont en colère, qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent au sein de ce couple séparé. Donc à mauvais escient, qui peuvent avoir des soucis scolaires ou se mettre en échec. Après, ça peut être des enfants également qui se renferment sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas à trouver leur place. Et bien évidemment, ça va venir atteindre l'estime d'eux-mêmes. Donc oui, on le développera tout à l'heure, mais ça va très loin, c'est-à-dire que finalement l'enfant est entre les deux. C'est comme si on lui demandait de faire un choix qu'il n'a pas à faire, et il n'y a rien de plus dramatique pour un enfant que d'oser choisir papa ou maman, quoi. Donc on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Après, aujourd'hui, le témoignage que je vais introduire on va être poignant, parce que bien évidemment c'est une histoire qui a été vécue et qui va vous montrer à quel point on peut aller loin dans cette histoire d'aliénation parentale.
Alors juste avant qu'on écoute ce témoignage, qui, j'imagine très bien, Alice, fera écho à tout ce que l'on vient de dire, c'est vrai qu'on a parlé des conséquences pour l'enfant, mais est-ce qu'il y a des enfants qui, par exemple... font le choix, du coup, influencé par le parent malveillant, de dire, admettons, je ne veux plus aller voir maman ou je ne veux plus aller voir papa. Du coup, cette fameuse garde exclusive que vous disiez va s'installer naturellement parce que l'enfant, vraiment, presque, va penser la même chose que son parent malveillant.
Alors oui, ça peut arriver. Alors j'enlèverai...
Parce qu'il le croit, j'ai envie de vous dire.
Moi, j'ai envie d'enlever le mot de suite naturellement, parce que c'est pas naturel.
Non, mais quand je vous dis naturellement, c'est choisi parce que presque que ça devient, à travers son parent malveillant, sa propre pensée, sans qu'il en ait conscience.
Non, mais c'est ça la problématique, c'est sous emprise. Comme finalement l'enfant vit un espèce de lavage de cerveau, il n'arrive plus à penser par lui-même. Donc finalement, ça va être le parent qui va être le plus oppressant, qui va peut-être avoir le dernier mot, et finalement, l'enfant va oser croire que oui, que c'est le papa ou la maman qui est dysfonctionnel.
Oui, quand je vous dis qu'il va vraiment le croire, parce qu'il va dire finalement, maman ou papa me fait prendre conscience de ce que c'est vraiment le parent d'en face, quoi. Voyez,
tout
c'est
à
ça
fait.
Que je veux vous dire.
C'est ça qu'il se passe, c'est que l'enfant est, ouais, voilà, est tellement sous emprise qu'il va, bah, comme dans toutes les relations d'emprise, hein, qu'il va finir par croire ce que dit ce parent-là et peut couper les ponts et décider d'aller vivre chez son père ou sa mère sans plus donner de nouvelles du jour au lendemain.
D'accord, c'est parce que voilà, comme tout à l'heure vous évoquiez, l'enfant qui, pour dire ne pas perdre un des deux, va se substituer à la parole et faire presque plaisir aux parents malveillants pour dire « bon, mais au moins comme ça, je ne perds ni l'un ni l'autre ». Et après, vous avez carrément ceux qui sont tellement aliénés par la pensée du parent malveillant qui le croient.
C'est ça, voilà. Parce qu'on va dire le syndrome d'aliénation parentale. Alors, a lieu réellement lorsqu'on est dans ce cas-là, où ce que l'enfant finit par détester le parent, même s'il est bienveillant. Voilà.
C'est
pour ça que les chiffres sont plutôt bas, parce que tant qu'il n'y a pas ça, on dit qu'il n'y a pas d'aliénation parentale.
D'accord.
Mais nous, on va dire au sein de nos pratiques et de notre cabinet, on voit les stratégies qui se mettent en place et on aimerait que ce soit reconnu avant
bien
qu'il
plutôt.
Y ait cette décision.
Oui, qui est presque finalement la conclusion du
tout
processus.
Fait.
Quoi,
c'est quelque part, on regarde, on laisse faire la stratégie. Et c'est moche à dire, c'est tant que dans la rue, pareil, tant qu'on n'est pas frappé, on ne peut pas aller porter plainte. Vous voyez ce que
sûr.
Je veux dire
oui, oui,
c'est
oui,
qu'on
oui.
sait
il
que le coup va arriver. Il faut être précisément dans le moment dramatique pour que la justice puisse intervenir. Donc c'est ça qui est dommage.
Et ma dernière question, Alice, avant notre témoignage, c'est aussi, on a pu le voir en télévision, dans les reportages, est-ce que ça fait partie de cette aliénation aussi parce qu'on voit de plus en plus aussi de procédures qui vont en police, etc., en commissariat de police pour justement des enfants qui se plaignent d'attouchements envers un parent. Alors évidemment, ça existe et c'est malheureux de le dire. Mais est-ce qu'il y a dans cette forme d'aliénation de la manipulation au point de dire « tu vas dire que papa ou maman t'a touché » pour que je puisse te récupérer.
Tout à fait, ça en fait partie. Il y a de fausses accusations d'abus sexuels.
Et c'est compliqué de faire la différence du vrai
et
du
mais
faux.
C'est ça le côté complexe, parce qu'évidemment, lorsqu'il y a viol ou abus, ben, si ça vient d'arriver, on peut aller effectivement à l'hôpital, vous voyez, pour faire voir un peu ce qui s'est passé en termes de preuves. Mais très souvent, alors ça c'est une réalité, très souvent, c'est un mode mécanisme défensif qui a été plutôt mis en place par les femmes que par les hommes. Et c'est pour ça, effectivement, que la justice a du mal à s'y retrouver entre les vraies accusations, bien sûr, les fausses accusations. Et c'est là que leur rôle est compliqué aussi, d'aller reconnaître un parent qui accuse à tort ou est-ce qu'un enfant a vraiment vécu ces situations-là. Bien sûr qu'on peut aller jusque-là, faire des faux témoignages à nos enfants.
Je trouve que là, je pense qu'il n'y a rien de plus pire. Le mot me viendrait vulgairement, mais je ne vais pas le dire. Mais d'arriver à faire dire à son enfant ça pour avoir la garde, je veux dire, il y a rien de plus pire que de faire accuser un parent à tort. C'est tellement grave quand ça se passe, vous voyez.
Ah, mais c'est très grave. En plus, j'ai envie de dire même que lorsque ces parents récupèrent leur enfant par ces méthodes-là, finalement, c'est même pas des parents apaisés. Finalement, ils sont toujours mal, ils sont toujours malheureux parce que par rapport à ce qui s'est joué dans ce coup, par rapport à la pathologie de la personne. Elle pense avoir gagné sur l'autre parent, mais au final, même en ayant la garde finalement exclusive de leur ou de leurs enfants, qu'il y en ait un ou plusieurs, finalement, ça change rien, quoi, la situation.
Ah
donc,
oui, vous pensez vraiment? Vous
ah
pensez
oui.
qu'ils n'ont pas quand même une satisfaction d'arriver à leur fin?
La satisfaction
certes.
De pouvoir détruire l'autre, mais au final, vu qu'on est plutôt plein de rancœur, que ce sont plutôt les émotions, la pathologie qui prend le dessus, ça ne fait pas même des personnes apaisées, quoi.
D'accord. Non, mais c'est dur parce qu'on le voit et c'est vrai que maintenant il y a carrément des services de police dédiés, spécialisés justement à ce genre d'enquête pour déterminer le vrai du faux parce que vraiment on est face, on peut pas ne pas prendre en considération la parole d'un enfant qui a pu avoir des sévices sexuels de la part d'un des parents. Et donc là, de faire le discernement du vrai du faux, qu'est-ce que ça peut être compliqué?
C'est pour ça qu'il y a toutes les expertises
et oui.
psychiatriques, psychologiques qui sont mises en place autour de ces
et
situations.
Et j'imagine la complication que ça doit être parce qu'on est face à un enfant et on a tellement envie que, voilà, de savoir le vrai du faux et de protéger cet enfant que franchement, ça doit être très, très compliqué. Je n'aimerais pas être à la place des psychanalystes ou vous, Alice, dans ces moments-là. Alors, Alice, je vais vous laisser accueillir tout de suite notre témoignage qui, je pense, se donnera encore bien plus de poids à tout ce que l'on vient de dire.
tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme qui s'appelle Frédérique et qui a été victime, effectivement, d'un papa aliénant, qui en est toujours victime, et qui a vécu, on va dire, un drame, hein, pour moi, qui était le drame de sa vie, et qui va, avec grand courage, nous expliquer le parcours qu'elle a vécu vis-à-vis de ses enfants.
Voilà. Bonjour Frédérique.
Bonjour.
Merci d'être
Bonjour
avec
Alice.
Nous.
Bonjour.
Frédérique, dans la vie, vous êtes...
Je suis thérapeute shiatsu en auto-entreprise.
Thérapeute shiatsu.
Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que ça on n'est pas là pour ça, mais c'est quoi?
Le shiatsu est une technique de bien-être qui vient du Japon. C'est de la médecine énergétique. On travaille sur les points d'acupuncture. C'est de la digitopression. Voilà, le shiatsu s'exerce à base de pression avec les pouces, les coudes, la paume de la main. C'est une technique de bien-être.
Dans quelques instants, je vais quitter ce plateau, je vais faire ma séance. En tout cas, Frédérique, merci d'avoir été là. Alors, pour vous, ce qu'on est en train de parler, tout ce qu'on vient d'évoquer, pour vous, forcément ?
C'est dur, c'est de la réalité, c'est ma réalité, c'est mon vécu. C'est la première fois que je vais en parler en public, donc c'est troublant.
On peut comprendre.
Donc, je.
On va vous guider peu tout dans ce déroulement.
Oui, s'il vous plaît, parce que.
Bien sûr, mais il n'y a pas de problème. On est là pour ça avec Alice. Alice, elle est là et on va y aller tout doucement. Alors, pour vous, vous aviez vécu avec. Vous êtes un enfant unique, vous êtes avec des sœurs et des frères?
Alors, on est quatre enfants.
Quatre enfants.
Voilà, j'ai deux sœurs et un frère.
Vous avez deux sœurs et un frère.
Je suis la plus jeune.
Vous êtes la plus jeune, d'accord. Donc, vous êtes dans un cadre familial avec vos parents, vos frères et sœurs.
Oui.
Tout va bien, à peu près. Ou des tensions
Elle est aussi issue d'un couple séparé.
J'ai grandi dans une famille qui n'est pas très apaisée, non. D'accord. Je ne peux pas dire que j'étais au sein d'un foyer... équilibré et heureux.
D'accord. Et vos parents se sont séparés, vous aviez quel âge ?
14 ans.
14 ans. Donc on se dit, vous êtes dans l'adolescence.
Tout à fait.
Est-ce que parce qu'on est adolescent, on le vit pour vous mieux qu'un enfant qui serait plus jeune ou ça a été compliqué ?
Ah bah,
je
pense que c'est différent, le ressenti est différent à chaque âge, à chaque période. À 14 ans, moi j'étais déjà... un petit peu en dehors de la maison. J'étais déjà... j'étais un électron libre, déjà.
Déjà.
Et déjà, le foyer était très, très, très disparate.
D'accord. Donc, vous étiez la plus jeune, en plus, ça, vous disiez ?
Pardon ?
Vous étiez la plus jeune, en plus,
ça,
vous disiez, 14 ans.
Donc, les grandes étaient déjà parties.
D'accord.
J'étais juste avec mon frère à la maison. Donc, voilà, ça a été un processus de rupture supplémentaire. Voilà, dans lequel on était déjà de toute façon.
Oui, donc c'était pas, on va dire, oui, le schéma idéal de famille,
non,
papa, maman qui s'aiment,
l'équilibre. On était un peu chacun de notre côté.
D'accord, donc cette séparation arrive à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui se passe dans cette séparation ? Vos parents prennent une route chacun de leur côté et...
Voilà, tout à fait, c'est ma maman qui est partie.
D'accord.
Nous, on est restés dans la maison avec notre père. Mm-hmm. Ma maman est partie, a pris un appartement dans la ville. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, alors, c'est plus tard, c'est à 17 ans. En fait, je peux dire que j'ai vraiment commencé à faire connaissance avec ma mère à 17 ans.
Alors, juste, si vous me le permettez, c'est vrai que déjà, c'est une situation un peu commune. Généralement, traditionnellement, les enfants partent avec la maman. Là, c'est vrai que de rester avec le papa, c'est un choix qui avait été...
C'est ma maman qui quittait, qui voulait elle se
voulait
séparer
partir,
de notre père.
Mais sans vous, quoi, sans les enfants.
Ah, ou, parce que...
Tout ou c'était vous qui avez décidé de quoi...
Pas du tout. Ça,
vous aviez votre parole à 14 ans. Vous aviez pu dire, moi je voulais être
on
avec papa.
On n'en a pas du tout parlé.
Ah, ça a été imposé.
C'est imposé, je sais
oui,
pas.
Oui,
en tout cas, maman a pris...
ses dispositions.
Après un appartement dans la ville.
Et sans penser à vous de dire, bien, je vais vous emmener, vous restez avec votre père et dans votre maison. C'est quoi,
Alice ? Je me souviens pas du tout qu'on en ait parlé. Peut-être on en a parlé une fois, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas été un sujet. J'ai pas l'impression qu'on en ait discuté. Pour elle, c'était parfaitement naturel, puisqu'elle voulait quitter mon père, de prendre son appartement. Et ça s'est fait très naturellement, en fait, il n'y a pas eu de discussion.
Ouais, mais ce qui est fou, c'est de devoir prendre un appartement et pas penser au bagage familial, les enfants quand même. C'est...
Voilà. Ça s'est fait comme ça.
Comme ça, d'accord. Ah, oui, non, mais après,
vous savez... voilà, dans l'histoire de vie, peut-être effectivement que sa maman, comme tu as dit, lui semblait naturelle et qu'elle ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là. Donc elle,
quelque part,
c'est clair et posé.
C'était posé. Et donc, vous étiez régulièrement tous les jours avec votre papa dans la maison familiale.
C'est ça, dans la maison. Tout à fait, on est resté dans la maison.
Et quand vous dites qu'à 17 ans, vous avez commencé à connaître votre maman, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait en fait au moment de la séparation ? Donc votre maman, elle a son appartement, vous êtes dans la maison familiale avec votre papa.
Oui.
Et vous voyez régulièrement votre maman ou...
Alors c'est marrant, de cette période-là, je pense qu'on se voyait régulièrement, c'est sûr.
C'est fou quand même, parce qu'elle a 14 ans, normalement, 14 ans, on se souvient des choses. Comme quoi, le cerveau, des fois, il nous fait barrière.
C'est vrai qu'on sélectionne.
Ah, ouais,
je me souviens qu'on allait régulièrement dîner chez elle. Ça, je me souviens qu'on allait régulièrement dîner chez elle. C'est à 16-17 ans que j'ai commencé à faire plus d'activités que juste d'aller dîner
chez elle.
Voilà, là, on a commencé à faire des balades ensemble, aller au théâtre. Là, on a vraiment commencé à passer des moments. Et qu'est-ce que je vous dis ? Alors, il faut revenir dans la chronologie. Mm-hmm. C'est à 17 ans, je n'ai pas seulement commencé à faire connaissance avec elle. Excusez-moi.
Non, mais tranquille, vous allez-y.
À 17 ans... On s'est installés ensemble. À 17 ans, j'ai déménagé. Donc, je suis restée 3 ans dans la maison familiale avec mon père. Et à 17 ans, j'ai déménagé chez ma maman. On a pris un appartement. Elle a changé d'appartement. Elle a pris un plus grand appartement.
Et là, vous êtes rentrée dans
la
vie.
Et là, je me suis installée avec
maman.
Et là, j'ai commencé à vivre avec maman. Et là, parce que c'est moi qui ai décidé. Voilà.
Et là, vous voyez, elle s'en souvient super bien.
C'est ça qui est intéressant. cette histoire de mémoire traumatique,
c'est fou. Mais ça, on le voit souvent, Alice.
En effet.
Dans tous les thèmes qu'on peut avoir.
En fait, à 17 ans, j'ai décidé d'aller.
Et les mots choisis sont. Voilà, j'ai commencé à connaître ma mère à partir de 17 ans. C'est la symbolique est là.
Tout prend un sens. Maintenant, je vais devenir spécialiste. C'est pour ça que je vois, en fait, tout ça, c'est le cerveau. Il a commencé à vivre à 17 ans et tout s'est installé, les souvenirs restent. Alors, pendant ce laps de temps de ces 3 ans, vous viviez avec votre papa dans la maison familiale, tout était tranquille ou les conflits, les disputes étaient installés ?
Ah non, pas du tout. On était vraiment chacun de son côté. Hein. Moi, je faisais ma vie avec mon grand frère. On était très souvent ensemble.
Ouais.
Il m'emmenait de partout. Moi, j'étais. Mon père, il faisait sa vie de son côté aussi. Hein.
D'accord, il vous embêtait pas, mais chacun était indépendant quasiment.
Vraiment.
On vivait ensemble, mais c'est presque de la coloc, quoi.
C'est
même pas.
C'est
d'accord.
Ça.
Ok, on comprend. Donc pas de. Ce que je vous demandais par là, c'est qu'il y a une ambiance, voilà, un peu chacun chez soi, quoi. Tout le monde se débrouille, mais bon,
pas de conflit.
Voilà.
Non.
Pas d'aliénation comme on est en train de le dire. Donc vous décidez avec votre maman d'aller vivre chez elle à partir de 17 ans et presque j'ai envie de vous dire votre vie commence bien. Et pourquoi on en arrive à ce sujet-là ? Parce qu'on dirait que tout va bien sur le plateau, là, tout va bien. C'est...
Ah bah, comment je me suis retrouvée dans cette situation ? C'est tout simplement en rencontrant un homme, en... tombant amoureuse très vite, en me mariant très vite. En fait, en me mariant avec un homme que je ne connaissais pas. Et voilà, comment on en arrive à là. Un homme que je ne connais pas et qui n'a fait qu'une bouchée de moi, en fait. Je pense que j'ai été sous son emprise en 24 heures.
Alors là, je suis perdue.
Ah bah, parce que je l'ai rencontré, j'avais 23 ans.
Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, 17 ans, vous installez avec votre maman, c'est votre choix et celui avec votre maman. On est OK. Votre papa, là-dedans, qu'est-ce qu'il en dit ? Lui,
Je me souviens... Alors, pour lui, c'était normal, enfin, c'était naturel aussi.
Si vous aviez envie, pas de problème.
Tout à fait. On n'a pas eu trop de discussions là-dessus. Hein. Les choses se sont faites comme ça.
Donc, vous étiez chez votre maman, vous rencontrez un gars, c'est ça ?
Mais c'est à 23 ans j'ai fait cette rencontre et
Donc il s'est passé du temps.
Bah
il s'est passé du temps. Alors moi je suis perdue là parce qu'on parle d'aliénation parentale et qu'est-ce que ce type-là vient rentrer là-dedans ?
Ben parce que ça va être par rapport à lui que Frédéric a vécu cette situation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la vie de Fred, finalement c'est cette famille qu'elle a eue, on va dire, voilà, dans laquelle elle s'est construite, peut-être n'a pas pu ou réussi à la stabiliser, à l'équilibrer, mm-hmm. en tant que
oui, bon, c'est clair qu'elle était indépendante.
En tant que jeune femme. Ah, oui. Et que dans l'histoire, ce qu'on a déjà vu ensemble, il se peut qu'elle ait eu besoin, elle, de peut-être de se réparer en construisant sa propre famille.
Bien sûr. Ah, d'accord. Ok.
Et c'est là que commence l'aliénation parentale. C'est pas par rapport à mes parents. C'est que c'est mes enfants. Je suis mère de deux enfants complètement aliénés. On est là pour parler de ça. C'est ça le. Enfin.
Non, parce que je voudrais bien voir tout le schéma pour voir jusqu'à où on en arrive.
Ah bah.
Donc vous, pour savoir un petit peu dans quel contexte et équilibre, en fait, donc vous arrivez avec cette personne-là, donc. Quelque part, comme Alice le dit, peut-être le moyen de vous construire à vous, de créer votre famille. Ce qui me fait halluciner, c'est que vous êtes en train de dire que presque vous le connaissiez à peine et vous êtes installé assez rapidement, marié, tout ça et tout, c'est ça ?
Oui, je pense que c'est ce qu'on appelle être sous l'emprise de quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne peux pas me l'expliquer autrement. Je pense que c'est mettre un mot sur ces choses
on
qu'on a vécues.
On est dans quel schéma de type ?
Là, c'est au moins de la manipulation. Cet homme, il me semble, a eu sa stratégie. Bon, je ne sais pas s'il savait jusqu'où il voulait aller dès le départ, mm-hmm. mais on va dire lorsqu'il a croisé Frédéric, avait déjà peut-être imaginé la vie que lui il aurait pu avoir. Et parce que c'est quelqu'un donc qui est sûr manipulateur, à tendance perverse, je sais pas comme s'il est pervers narcissique, mm-hmm. mais qui avait, excusez-moi, une stratégie, je pense, et des idées bien claires et précises. D'accord. lorsqu'il a rencontré Frédéric.
Donc, mais pour le départ, quand vous êtes, on va dire que vous êtes dans l'engouement, Frédéric, d'accord, vous rencontrez cette personne, tout va bien, vous vous mariez rapidement, vous m'avez dit.
Tout à fait, trop rapidement.
Combien de temps après l'avoir rencontré ?
3 mois.
Ah ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est rapide. Il y en a qui attendent 20 ans et elle, 3 mois après, elle est mariée. D'accord.
C'est grave.
Non, pourquoi c'est grave ? Mais non, quand
c'est
on se dit.
C'est un signe.
Non, alors franchement, non, quand le coup de foudre il est là, si on se dit tout va bien, pourquoi pas ? Écoutez, non, franchement, il y a. Moi, je dis, il n'y a pas de jugement à donner là-dessus, quoi. Moi, pour ma part, hein, franchement.
Vous avez raison.
Et puis, il n'y a pas que des mauvaises histoires. Hein.
Non.
Ça aurait pu être quelqu'un de bien.
Oui, ça aurait pu, franchement. 3 mois après.
Voilà. C'était pas écrit.
Vous savez, par exemple, vous prenez rien que nos anciens. 3 mois après, c'était pas normal de se marier.
Ouais,
hein, ils ont fait 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie commune. Là, c'était, on va dire, pas de chance de tomber sur le gigolo. c'est ma manière à moi, Alice, vous savez. Donc, vous vous installez, vous vous mariez. Les enfants arrivent combien de temps après ?
Assez rapidement. En 2005, Abdallah est né. Et en 2007, j'ai eu un deuxième enfant.
Oui, donc vraiment tout s'installe rapidement. Oui. Donc, cette personne-là, si elle est là, elle est pleinement amoureuse de vous, vous vivez heureuse avec lui ou...
Ah non, il n'y a pas eu beaucoup de bonheur, non, pas du tout. Non, j'ai vécu trois années très difficiles.
Alors pourquoi vous installer dans un cadre comme ça, faire des enfants, ça et tout ?
C'est
dur ce que je suis en train de dire, Alice.
Non, en plus, je ne pense pas que ce soit le thème de l'émission,
mais
c'est parce que on ne peut pas l'expliquer. Je pense que quand on tombe sous l'emprise de quelqu'un, et ceux qui connaissent me comprennent, ça c'est certain.
Voilà.
Puisque en effet, quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on perd son contrôle. J'ai tourné le dos à toute ma vie comme ça, en un claquement de doigts.
Mais c'est réellement ce qui se passe quand on fait une émission là-dessus. Effectivement,
elle
était sous emprise. Si, c'est de l'emprise. Donc c'est pour ça qu'elle était embarquée dans cette histoire si rapidement. Elle était très fort dans sa stratégie.
Ah ben oui, là c'est plus que ça. Donc 3 ans, vous vous êtes installé donc avec les enfants, etc. Donc là vraiment, j'imagine que l'aliénation vient du coup de lui sur vos enfants.
Tout à fait.
Et
les deux garçons sont totalement aliénés contre moi. En fait, ils ont été éduqués contre moi, tout simplement. Ça se fait depuis le premier jour. C'était pas arrivé un jour suite à un événement. Il a vraiment fait le travail de sabotage depuis leur naissance. Ils ont grandi comme ça. Ils sont éduqués avec cette idée-là. Pour eux, c'est comme ça. C'est ça la réalité.
Votre famille, à vous, dans votre vie de couple et dans votre vie de famille avec vos enfants, elle a une place ou pas du tout ?
Non, il y a juste ma mère qui existe pour eux. Mais sinon, il y a pas de famille, il y a personne. J'étais un électron libre.
D'accord. Donc il y a pas votre père, il y a pas vos frères et sœurs là-dedans qui.
Non, mon père a coupé les ponts avec moi quand il a su que j'allais me marier.
D'accord.
Là, il a coupé les ponts.
Oui, donc vraiment, vous vous retrouvez assez seule dans...
Ah, j'étais isolée.
Ah, ouais,
donc j'étais très isolée.
Donc, non,
j'étais...
ce que je demande par là, c'est pour savoir si elle aurait pu être un peu épaulée, guidée, et que ses enfants connaissent autre chose, peut-être que votre mari, et peut-être son cadre à lui, familial aussi. Lui est seul ou il est entouré?
Alors, lui,
par contre ?
Alors, lui, il arrive d'Algérie.
Mm-hmm.
Ça faisait 3 ans qu'il était là.
Ouais.
Il était tout à fait... Il n'avait pas de famille, il n'avait que des amis. Mmh. Dans la commune où on s'est rencontrés, mmh. on se trouvait. Et du coup, non, lui, pareil, il était seul.
Il était seul, mais ouais. Par contre, avec une emprise absolue.
Oui. Voilà, c'est ça, il avait sa stratégie, on va dire, je pense rapidement, qui a été mise en place, il savait où il voulait aller. Et ce qui va être, on va dire, difficile, mais intéressant, c'est effectivement que, comme dit Frédéric, c'est que depuis qu'il est devenu père, cet homme, enfin depuis le jour où il a rencontré Frédéric, il a mis en place ce mariage, le fait qu'elle devienne maman, lui, il avait ses idées, on va dire, je pense, qui étaient très claires dans sa tête. Et c'est comme va nous expliquer Fred, ben, finalement, c'est qu'est-ce qui s'est passé à partir de quand, comme elle nous a dit, voilà, c'est dès le début, mais comment ça s'est déroulé et jusqu'où ça a pu aller cette aliénation parentale.
Donc on comprend que vos enfants... pour vos enfants, vous êtes quoi, quasiment inexistante ou tellement qu'ils sont influencés par leur père ou vous avez quand même un rôle là-dedans? Ils sont quand même attachés à vous, vos enfants, c'est logique.
Alors, dans mon cas, on a été jusqu'au rapt parental. Il les a déplacés, ils sont dans un pays étranger, ils sont en Algérie depuis 10 ans.
Mais au départ, avant, parce que donc, vos enfants, ils sont nés à...
Vous m'avez ils dit, sont tous les deux nés en France.
Voilà, mais à 2 ans d'intervalle.
C'est ça, tout
deux
à ans fait, 2005-2007.
Voilà, donc vous les avez avec vous encore, avant que se passe ce drame-là, jusqu'à quel âge vous les avez?
Jusqu'à leurs 4 et 6 ans.
Leurs 4 et 6 ans, donc c'est assez petit, mais il y a quand même un attachement qui se manifeste de ces enfants envers vous, de vos enfants envers vous, ou vraiment ils sont beaucoup vers leur père, ils sont...
Ah, ils étaient complètement sous l'emprise de leur père, je sais pas.
En tant qu'affection, vous voyez ce que je veux dire, maman...
Moi, je peux pas dire, parce que je suis complètement concernée, donc je peux vous parler de ce que j'ai vécu avec eux, de tous les moments qu'on a vécu ensemble, des échanges qu'on avait ensemble, surtout que très vite, je me suis séparée. Donc très vite, j'ai été seule avec eux. Il a fait un premier enlèvement aussi.
Donc alors, attendez.
Il les a déjà enlevés une fois. Il les a enlevés une première fois en Algérie. Il les a gardés longtemps en Algérie, une première fois, quand le petit n'avait pas 2 ans.
D'accord.
La première fois qu'il nous a séparés, le petit n'avait pas 2 ans.
Le dernier.
Et ils ont passé une longue période en Algérie. Donc ensuite, ils sont revenus. Donc c'était dans leur empreinte.
D'accord.
C'est...
Donc vous vous séparez. En fait, vos enfants arrivent au monde donc 2005-2007. Dans quelle situation? Donc quand le dernier arrive en 2007, vous donnez naissance à votre deuxième enfant et vous êtes quoi, dans une perspective de séparation?
Ça ou... c'est sûr, parce que je voyais bien le mal.
Donc
quoi.
Même déjà quand votre deuxième enfant naît, vous êtes déjà dans...
Ah oui, c'est sûr. On a passé ensemble que 3 ans et demi.
D'accord.
Tout s'est passé très rapidement.
Et une situation de maltraitance aussi, très rapide, mise en place. Oui,
maltraitance physique?
Ah bah bien sûr, j'étais victime de violences verbales, physiques, psychologiques.
Très rapidement.
Bien sûr, j'ai connu le mal. Le mal m'est tombé dessus du jour au lendemain.
Alors, vous, donc votre deuxième enfant arrive en 2007. Vous êtes déjà dans une perspective de séparation. Et vraiment, la séparation se fait à quel moment, vraiment? Vous êtes séparés déjà?
En 2008.
2008. Donc là, 2008.
En 2008, donc 4 ans après notre mariage. On s'est mariés en 2004. En 2008, je prends mon appartement avec mes enfants. Dans le même quartier. En tout cas, séparation physique.
Séparation physique, donc vous êtes séparés, vous êtes avec vos enfants.
C'est ça.
Hein, vous avez la garde de vos deux enfants.
Alors, pas pour l'instant, parce que ça vient plus tard. La garde, les décisions de justice, elles viennent. Assez... Ensuite,
d'accord.
Voilà, faut pas trop traîner, mais en tout cas, c'est.
Mais au départ,
c'est
ils sont avec. Au départ, ils sont avec vous. Au départ,
voilà,
ils sont avec
en
vous.
Tout cas, physiquement, ils sont avec moi.
Et ils voient leur père.
Oui, tout à fait.
Régulièrement.
On était à côté dans le même quartier.
D'accord, donc
ils se voient. Il y a pas de souci. À aucun moment, j'ai été un obstacle entre eux, quoi.
Vous sentez que dans cette séparation, ça vous fait pour vous, je pense. Du bien d'être séparés, vous.
Ah oui.
Vous retrouvez un petit peu un souffle, j'imagine.
Je me souviendrai toute ma vie. Le premier jour où je suis rentrée dans mon appartement, c'est comme si je respirais à nouveau. J'ai retrouvé l'oxygène et j'ai eu cette sensation physique. C'est pas que des mots. Mm-hmm. J'ai vraiment senti la sensation physique.
Comme si on vous libérait.
Je respire à nouveau.
Ah, on vous enlevait vos liens qui étaient
oppressants. Donc oui, c'était la bonne chose à faire. Il fallait que je me sépare. De toute façon, j'avais pas le choix.
Vous êtes dans cet état d'esprit. Et face à vous, vos enfants, eux, ils sont comment ?
Ah, bah alors, c'est difficile parce que pour moi, là, c'est le quotidien. Donc on est pris dans un quotidien. J'étais malheureuse, déprimée. J'étais choquée, en fait. J'étais en état de choc. C'était la première marche. De ma libération, de ma reconstruction, de me séparer. C'était le premier pas. Enfin, c'était, j'étais dedans, j'étais mal. Je vois des choses, je vois pas tout. Et les enfants étaient avec moi dans l'appartement. Moi, je me souviens c'est difficile de dire comment les enfants étaient.
C'est
difficile.
C'est-à-dire, c'était tellement compliqué dans son parcours de s'établir en tant que mère qu'elle a peu accès aux questions que vous posez, c'est quelles sont les relations avec les enfants, comment ils se comportent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, il y a vraiment cette notion de choc, on va dire de stress post-traumatique qui est là.
On n'a pas une relation avec mère-enfant comme on pourrait l'avoir en temps normal.
Mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'elle a dû du coup traverser la situation de violence avec cet homme. Il y a également, même si c'est une libération, de devoir se séparer, de se retrouver seule avec ses deux enfants.
Bien sûr.
Elle fait ce qu'elle peut avec ses enfants qui sont là, on va dire, je pense qu'ils devaient être dans un lien, on va dire plutôt peut-être normal, mais avec ce papa qui est là, qui s'impose et qui vient tout le temps bafouer la maman. Parce que bon, voilà, on se connaît bien, c'est-à-dire que ce n'était pas un homme, et ce n'est toujours pas un homme, qui respecte le femme et le statut de la mère. C'est-à-dire que très peu, depuis toujours, ces enfants ont entendu des mauvaises choses sur leur maman. Voilà. Donc il est venu biaiser depuis le début la relation.
Donc à quel moment, en fait, oui, parce qu'en fait de toujours, ça n'a jamais été juste au moment de la séparation, c'est ce que vous vouliez dire, Alice.
Oui.
À quel moment en fait les choses se sont dégradées et que vos enfants vous échappaient en quelque sorte ?
Alors j'ai vraiment pris cette décision. On était dans le même appartement et il m'insultait. Et un jour, le plus grand, qui avait quoi, 2-3 ans, il m'a frappé avec un objet en bois. Il m'a tapé et il a rien dit. Et mon ex-mari, limite, il l'a applaudi. Mais mes enfants ont été de suite sous l'emprise de leur père,
oui,
dans un conflit
image.
De...
C'est l'image qu'ils ont, c'est ça le problème. J'imagine. Eux, des enfants, c'est des éponges.
Alors, ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est le conflit de loyauté. Donc ça, c'est très important. L'enfant est pris dans un conflit de loyauté. Il veut être loyal envers le parent fort.
Bien sûr.
Et du coup, très tôt, ils se sont retournés contre moi. Parce qu'il fallait plaire au papa. C'était lui le fort, donc il fallait instinctivement aller de son côté. C'est un instinct. C'est l'instinct de survie. C'est le conflit de loyauté chez l'enfant. L'enfant n'est pas libre. Il est sous l'emprise d'un parent s'il veut. Voilà.
Ah oui.
C'est de l'aliénation. C'est
de
l'aliénation.
Parce que de se dire, même si on s'imagine 2-3 ans, un geste violent, c'est pas ce qui va faire un truc grave dans l'ensemble, mais c'est le geste surtout qui est choquant.
C'est ça, c'est-à-dire.
C'est la réponse du papa. Il l'a pas corrigé.
Non, mais là,
il a presque applaudi.
Non, mais là, vous auriez pas. Non, moi, ça me choque pas ça. Moi, je vous dis la vérité, ça me choque. Moi, personnellement, ça me choque pas que le papa ne dise pas ça, puisque lui, le faisait déjà. Donc, à partir du moment qu'il le fait, il n'allait pas dire
Oui, c'est le côté mimétisme. Mais c'est vrai que le fond de l'histoire, c'est que l'enfant n'est même pas autorisé à se comporter comme il aurait envie de le faire vis-à-vis de sa maman, parce qu'il y a toujours ce regard pesant, ce poids du papa. Après, dans l'histoire, il y a eu cette entente qui était catastrophique par rapport au papa.
Non,
qui
le papa, il va pas dire non, mon fils.
Et ensuite, le drame, c'est effectivement, il y a eu ce premier rapt, ce premier enlèvement. Mais c'est-à-dire que Fred va nous expliquer, dans la continuité, c'est qu'à un moment donné, il est parti, mais il a carrément fait couper les liens avec la maman, partie dans son pays. Et la maman est devenue inexistante, avec surtout le côté négatif qu'il a entretenu vis-à-vis.
Deux secondes, Alice, comment on arrive parce que je sais qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a le poids aussi et l'influence de la religion, parfois, qui peut être là. On le voit souvent, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme Frédéric, de mamans qui ont été avec des personnes de communautés musulmanes et qui ont emporté les enfants dans leur pays et qui ont carrément donc pu permettre de couper les ponts, mais ça n'arrive pas que aux communautés musulmanes, hein, ça arrive même avec des personnes qui habitent en pays étranger. Mais moi, ce qui me rend folle, c'est de se dire à quel point cette stratégie installée marche, quoi, de dire comme si le parent presque était décédé, qu'il n'existe plus. Voilà, il n'a plus.
C'est vraiment cette histoire de lavage de cerveau, c'est-à-dire.
Non, mais l'émotion d'un enfant, normalement, c'est naturel d'aimer les deux parents chez un enfant.
Ah bah oui, mais là, les enfants ne sont pas autorisés, ils ne sont pas permis à cause de l'emprise, à cause de ce papa qui fait peur aussi. Il y a la crainte aussi de ce papa. Ils vivent ce qu'ils vivent dans cette relation de maltraitance. La question. Et voilà, est-ce que aussi eux, ils n'avaient pas eu peur d'être maltraités, et ce dénigrement de la femme qui était mis en place au sein de ce foyer particulier. Donc voilà, c'était pour. Après, il y a l'histoire de l'Oedipe dont on a parlé la dernière fois, avec les tranches d'âge. Et après, dans nos phases de vie, qu'on soit fille ou garçon, on a besoin de porter papa ou de porter maman. Eux n'ont pu être que dans cette fixation de devoir mettre papa sur un piédestal, tellement maman a été salie et détruite depuis le début. Donc c'est pour ça, après, Fred va nous raconter.
Alors,
voilà,
donc, vous dites Fred, qu'apparemment, donc en presque une fois, vous avez eu une première alerte, donc votre ex-mari a emporté les enfants en Algérie.
Oui.
Moi, ça aurait été moi, c'est la panique totale. Je veux dire, c'était quelque chose que vous le saviez, ou ils sont partis sans que vous soyez informé de ce départ?
Ah si, à chaque fois, ils partaient avec mon autorisation.
Ah, moi, je sais pas comment vous avez fait. La peur de ne plus les revoir, franchement.
Bah, la bienveillance. Jean-Frédéric est une maman équilibrée. Qui se disait, elle a besoin de son papa, ils ont besoin de connaître leur famille là-bas. Donc,
au départ, c'était une démarche comme ça, en fait.
Tout à fait.
Donc, ce premier départ se fait, il dure combien de temps?
Ils sont partis 15 mois.
15 mois? Et c'était prévu 15 mois?
Ah non, pas du tout, non, c'était pas prévu.
C'était prévu combien de temps au départ?
C'est un enlèvement, tout simplement.
Non, au départ, c'était convenu combien de temps au départ qu'il devait partir avec vos enfants?
Deux semaines.
Waouh. D'accord. Et vous, dans ce laps de temps-là, c'est quoi? J'ose imaginer, quoi. Je veux dire, 15 mois sans vos enfants, pas de nouvelles, rien.
C'est pas très drôle à vivre.
C'est mieux de pas l'imaginer. C'est dramatique. non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est dramatique. Donc, 15 mois, il n'y a pas de nouvelles. Comment ça se passe, ces 15 mois-là?
Si, j'ai eu des nouvelles parce que j'ai prévenu les institutions en place, le consulat, un avocat. Et donc, j'ai commencé à voir comment ça se passait dans le monde diplomatique, au niveau de la justice.
Un calvaire, j'imagine.
Ouais, c'est pas drôle, c'est pas drôle.
Mais c'est pas facile.
On apprend le temps diplomatique, on apprend le langage diplomatique, on apprend comment fonctionne la justice. Voilà, on apprend la patience, on apprend la philosophie, on apprend à vivre, avec ça, en fait.
Et pas se détruire en même temps et de tenir le cap.
Je me suis battue pour justement ne pas être détruite, tout simplement. Je me suis battue pour garder la tête hors de l'eau. C'est la seule chose qu'il faut faire. Enfin, que moi, j'ai fait.
Pour faire un peu rapide, parce que je pense qu'on pourrait faire deux heures sur le sujet, mais donc vous arrivez, ce que vous disiez tout à l'heure, à revoir, et vos enfants reviennent en France. Au bout de 15 mois, c'est ça?
C'est ça.
Mais ça se passe en fait par obligation, parce que vous avez réussi avec vos démarches à...
Oui, oui, parce qu'on s'est mis d'accord, en fait. Parce que leur père voulait revenir en France, on s'est mis d'accord sur un mode de garde, et voilà.
D'accord. Donc, du coup, ça revient, vous retrouvez enfin vos
enfants.
Oui,
tout à fait.
J'imagine le pur bonheur. Vos enfants, heureux de vous retrouver ou...
Les enfants, ils étaient troublés. Hein. Les enfants, ils sont... Je sais que c'est difficile à concevoir, je sais. C'est pour ça que j'insiste, ils ont été éduqués comme ça. C'est comme ça depuis le début.
Non, mais de toute façon, vous n'avez pas là-dedans, vous avez pas votre faute.
Il a saboté nos liens depuis le début. Alors, vous expliquez le pourquoi du comment,
non,
je
ne
sais
non.
pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et donc, est-ce qu'ils sont contents de me retrouver? Je pense qu'ils sont, très troublés. Ils ont été, du jour au lendemain, ils se retrouvent en Algérie et du jour au lendemain en France. Je pense qu'ils sont marqués et choqués par ça déjà encore aujourd'hui. C'est que ils sont en France, ensuite en Algérie, ensuite ils reviennent en France. Enfin, je pense qu'ils étaient bien déboussolés. Déboussolés. Et l'aliénation était déjà installée.
Oui, bah, ça, on avait
de
bien
toute
compris.
Façon.
Voilà. Et sachant qu'il n'y a rien de naturel pour un enfant d'être éloigné et coupé de sa maman.
Ah non,
comme de son
sûr.
Papa. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est très compliqué.
Vous savez, c'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est l'état de choc. Quand on vit les choses, on n'a pas une perspective. On ne peut pas en parler comme ça, les mettre en relief quand on les vit. Ça, vous êtes dedans, quoi. Quand on a la tête dans le guidon, on est dedans. Donc, c'est difficile après de savoir exactement dans quel état on était.
Mais là, vous arrivez quand ils reviennent en France et que, voilà, tant bien que mal, vous essayez de reconstruire des liens avec vos enfants. Ça se passe comment? Vous êtes avec une garde?
Alors, on les avait une semaine chacun.
D'accord.
On s'était mis d'accord pour les avoir une semaine chacun. Tout à fait. Ça se passait bien jusqu'à qu'il apprenne que j'allais réavoir la garde classique.
Et pourquoi cette garde classique, elle était demandée par vous?
Parce que lui, il continuait son travail de sable, son travail de sabotage. Il continuait à leur mouliner.
Et donc c'est à votre initiative, vous avez fait une demande.
Leur éducation anti-français, les insultes, ta ta ti ta ta ta. Donc il avait une énorme influence sur eux.
Donc
en plus, c'était pas épanouissant pour eux.
Ah ben non.
Donc j'ai demandé la garde classique.
Ouais.
Voilà. Donc
Et à ce moment-là.
Et c'est pour ça qu'il est reparti avec.
Et donc
je les ai autorisés à repartir avec encore une fois.
Ah oui.
Parce que je voulais vivre un contexte normal. Voilà.
Mais comment vivre un contexte normal, Frédéric? Vous me surprenez quand vous
c'est
dites ça.
Comme ça. C'est comme ça, je ne vais pas vous l'expliquer, ou alors vous allez finir par me juger, forcément.
Je ne vous jugerai pas, c'est
parce que
je cherche à comprendre votre courage, parce que moi, je ne suis pas sûre d'arriver à faire ce que vous avez fait, vous, parce que je ne vous juge pas. Mais j'admire ce que vous faites, parce que de laisser partir vos enfants pour dire, pour presque leur bonheur, et que les choses
oui.
se passent bien.
C'est ce que je voulais, j'ai misé sur la normalité.
C'est pour ça que je vous dis, je ne vous jugerai pas, parce que je ne me le permettrai pas, et je suis personne pour vous juger. Mais de se dire, d'avoir cet état d'esprit de bienveillance, alors que vous souffrez, quoi. Moi, c'est moi qui me détruirais, quoi, pour faire. Alors, s'il faut se détruire pour que ses enfants soient heureux, je peux le concevoir. Mais mon Dieu, quoi, voilà.
Je sais pas.
Beaucoup
je peux pas
d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup de courage.
Ah ben oui, non, c'est le courage. Moi, je vois vraiment. Donc, vos enfants.
Parce que sinon, j'aurais vécu quelque chose de terrible. J'ai misé sur le normal. On peut faire les choses bien et intelligemment. J'ai misé là-dessus parce que je pouvais pas supporter l'autre scénario. Faut que je les garde avec moi. Je pourrais pas les laisser partir en Algérie avant leurs 18 ans. On va être sous une pression permanente. Ça, par contre, ça, ce scénario, je le voulais pas.
D'accord.
Je me disais, Fred, essaye de faire au mieux. Ils aiment l'Algérie, ils aiment leur famille là-bas. Laisse-les profiter. J'ai refait une autorisation pour 2 semaines. Eh ben, ils y sont encore, 10 ans plus tard, ça fait 10 ans.
Donc ils ont quel âge aujourd'hui?
Ils ont 14 et 16 ans.
Voilà, donc...
Ouais. ouais, vous avez vu, hein,
non, mais, non, mais voilà ce, que, ouais. ce qu'a traversé, voilà, ce qu'a traversé Fred avec le peu de liens, finalement, qui a été mis en place pendant ces 10 années, c'est-à-dire qu'elle a continué à se battre. Pour entretenir une relation, on va dire, quand je parle entretenir une relation, c'est une communication
liens, ouais.
malgré tout avec le père, pour malgré tout, pendant toutes ces années, avoir pu avoir des nouvelles de ses enfants, un combat perpétuel qui ne s'arrêtait jamais ben de oui. savoir quand est-ce que je peux le récupérer, quand est-ce que je les faire venir en France. Parce que bien évidemment, monsieur, ben, on va dire, par rapport à la justice qui, ce qu'il avait fait en France, s'il venait, c'était ben, dès qu'il mettait un pied sur le territoire, il partait en prison. Donc ça a été une lutte, on va dire, pendant ces 10 années, jusqu'à... Là, on va en parler.
Oui, oui, ben, je les ai revus. Ils sont revenus l'été dernier.
C'est ça.
L'été dernier, ils sont revenus. Pas pour de bon. Ils sont venus pour 3 mois.
Mais là, c'était de leur plein gré, à eux. C'était leur, volonté.
Franchement, ils sont pas encore libérés. Je peux le dire, mes ados ne sont pas encore libérés de l'emprise de leur père. Pas encore. Ils sont 14 et 16 ans. Ils sont pas encore libres. Ils sont encore manipulés. Ils sont venus, ils sont revenus cet été. C'était une stratégie. C'était pas de leur propre gré, pas du tout. Ah bon ? Ils ont suivi les prérogatives de leur papa.
C'est-à-dire ? Quand vous dites c'est une stratégie, les prérogatives, c'est dans...
Ah bah parce que tout ça, ça s'est fait. Tout ça, c'était le fruit d'une médiation, puisque leur père avait un but précis. C'était pas que je retrouve mes enfants, pas du tout. Non, non.
Mais quel était son but ?
Au tout début de la médiation, lui, en fait, on n'a jamais cessé de communiquer parce que lui, il insiste pour revenir en France. Lui, son but, c'était de revenir en France. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours fait barrage. J'ai jamais cédé. Donc là, on était en médiation. Et du coup, ils sont revenus tout seuls. Donc, déjà, c'était pas le but de la médiation. Leur père a entamé une médiation pour que lui revienne avec les enfants et qu'il les ait avec lui en France. J'ai jamais cédé, hein. J'ai jamais cédé. J'ai souffert l'absence de mes enfants pour ne pas le voir revenir en France. Je sais pas ce que le monde entier peut penser de ça. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas cédé.
Moi, j'ai envie de vous dire girl power. Non, franchement.
Donc, ça a pris du temps. Donc, ouais. Les garçons, parce que vous imaginez bien qu'il a voulu revenir dès l'année suivante. Un an après, il m'a contacté. Fred, on revient. Mm-hmm. On revient tous les trois, on revient en France. Non. Moi, mon but, là, c'était que lui, il ne revient pas. Donc, chaque année, donc ça fait depuis. Et là, ils sont revenus tout seuls, parce qu'ils ont pu, à 14 et 16 ans, ils peuvent prendre l'avion tout seuls. Voilà.
Donc, mais votre courage... Non, mais franchement, son courage...
Mais c'est pas fini. Est-ce que... Je vois le temps qui passe. Mais est-ce que, voilà, du coup, ils sont revenus. Donc, on se dit, super, Fred avait tout préparé, hein, comme il faut.
Ah ben, on imagine.
Chez elle, les accueillir. Vraiment un programme, un programme super, plein de bienveillance, justement, pour qu'il n'y ait pas le choc des cultures. Enfin, c'était poser toutes les questions possibles, imaginables, de faire visiter le sud, les coins de la France. Enfin, elle avait fait un beau programme. Et malheureusement, ben, ça ne s'est pas passé comme elle imaginait.
Alors, je savais que ça allait être difficile, mais je n'ai pas imaginé la violence. Je n'ai pas imaginé la violence que j'ai rencontrée, parce qu'on n'imagine pas la violence.
Surtout de la part de ses enfants.
On n'imagine pas, on ne conçoit pas, en fait. Si on ne vit pas, on ne peut pas le concevoir.
Est-ce que vous pouvez donner, juste pour qu'on arrive à imaginer, pourquoi vous dites ce mot « violence » Pourquoi ?
Bah parce que pour l'instant, les garçons, surtout le plus jeune, il ne se souvient pas de moi. Il ne me reconnaît pas comme sa mère. Et j'ai aucune légitimité pour lui. Le grand, ça allait mieux. On a pu passer des bons moments ensemble. Mais le petit, pas un seul. Au niveau symbolique, on peut dire qu'on est étranger. C'est vraiment au niveau symbolique, parce que j'ai l'amour maternel, je le ressens, ce sont mes enfants.
Bien sûr.
Là, ça, il n'y a rien qui est brisé là-dessus. Niveau symbolique, on va dire que pour l'instant, on est des étrangers.
Et du coup, est-ce que tu peux donner de nombreux exemples ? Juste un exemple, justement, Jennifer, te demande pourquoi la violence ? Quel type de violence t'as vécu cet été ?
Ah, bah avec mon jeune de 14 ans, Habib, il est turbulent. Et... Bah ouais, je sais, c'est très étrange. Hein, c'est très étrange. Il a, bah quelque part,
Parce qu'à la place du père, en quelque sorte, non ?
Bah ouais, il m'a menacé de s'en prendre à moi physiquement. C'est très étrange. C'est très étrange. J'arrive même pas à le dire tellement c'est invivable.
C'est le plus jeune, celui-là, qui a fait ça.
Et lui, il est très perturbé. Attention, n'oubliez pas qu'on a été séparés, il n'avait pas 2 ans.
Et, oui.
Et cet enfant, je le dis haut et fort, cet enfant est perturbé. Vraiment.
Ah ben, il y a de quoi, non, je pense.
Voilà, je ne le condamne pas du tout, parce que je sais que les jeunes ont un pouvoir de résilience énorme, donc je compte là-dessus, mais pour l'instant, il est perturbé.
Et il subit.
Je vois pas comment on peut sortir d'un contexte comme ça, Alice, sincèrement.
Alors, là, il subit encore aujourd'hui la stratégie de son papa. Ce qui fait qu'il y a le côté aussi culturel qu'il faut pas mettre de côté.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'ils ont été élevés là-bas avec que le côté familial, donc paternel. Ils sont arrivés ici et avec tout ce mépris dans leur éducation pour la femme, pour la mère qu'ils ont. C'est-à-dire qu'elle a vécu, comme ça a été dit, quand on dit qu'il a peut-être pris la place du père, c'est-à-dire qu'il s'adressait à sa mère comme le propre père pouvait s'adresser à elle.
Eh oui,
c'est-à-dire quand, je peux me permettre, sans aller dans le secret professionnel, c'est-à-dire qu'elle était face à des enfants de 14 et 16 ans qui ont tout cassé chez elle. C'est-à-dire qu'il y a eu intervention des voisins, il y a eu intervention de la police, il y a des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont échappés. Ils se sont retrouvés dans des foyers. Enfin, ils lui ont fait vivre l'enfer pendant 3 mois, eux.
C'est vrai, j'oublie, hein. C'est fou, hein. C'est pour ça que c'est difficile de parler de son vécu. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs tout l'été. J'ai dû appeler à l'aide des éducateurs spécialisés. Ils ont fait toute une magouille avec leurs cousins pour rentrer dans des foyers. Enfin, ça a été du délire. Total, j'ai vécu un film.
Alors voilà. Alice, juste parce qu'on arrive déjà à l'ultime heure de cette interview avec notre témoin Frédéric, franchement des choses vraiment choquantes à entendre et encore plus j'imagine à les vivre. Là, en dehors de se dire du choc culturel maintenant qui s'est installé en dehors de l'aliénation parentale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu maintenant dans le vécu de Frédéric et la situation de ses enfants. Pour donner une lueur d'espoir ou non, est-ce que quelque chose comme ce qu'elle est en train de vivre Frédéric, pour d'autres qui peut-être le vivent aussi, à un moment donné, on se dit que c'est possible de reconstruire, de recréer et de sortir des enfants de cette aliénation et d'avoir un minimum de... Où c'est très compliqué.
Ce qu'on se dit avec Frédéric, c'est qu'aujourd'hui...
Ou à un moment donné, il faut laisser tomber, quoi.
Ça, je ne peux pas permettre de dire. Je ne me permettrai pas.
Vous ne le direz pas pour ça.
C'est à la personne de décider. C'est-à-dire que après un tel combat, après de tels résultats, la question est-ce qu'il faut continuer à se battre en vain pour le moment, ou est-ce qu'il faut continuer à s'acharner? Je veux dire, effectivement, vu l'âge qu'ils ont, vu ce qu'il se passe actuellement. Ça sera en mûrissant et peut-être en vivant d'autres expériences, peut-être avec des personnes tierces extérieures qui pourront peut-être prendre conscience de ce qu'ils ont vécu, de ce qui se joue. Parce que
là, dans les circonstances, ça paraît très dur, hein, franchement, d'avoir ce courage d'essayer de créer un lien qui n'a jamais.
Actuellement, c'est compliqué, mais je veux dire, c'est pour ça toute la force que je reconnais, tout l'amour, toute la bienveillance, ce qu'elle a pu traverser jusqu'à présent dans sa vie, Frédéric, comme j'ai peu de femmes et peu de mères qui auraient pu le vivre, parce qu'aujourd'hui, elle est debout. Face à nous, elle n'a pas eu une vie. Elle aurait pu sombrer dans tous les travers,
mais vraiment.
Et elle est toujours restée debout.
C'est pour ça que quand je vous dis le mot courage, et franchement, personne ne vous jugera, peu importe vos décisions, parce que moi, je suis pas sûr que j'aurais resté moi personnellement, je vous le dis, debout comme vous le faites. Et aujourd'hui, j'aurais même pas pensé à l'histoire que vous êtes en train de nous raconter sur ce plateau. Donc, franchement, bravo à vous. C'était pas beau de vivre ça. Franchement, c'est vrai que tellement on aimerait avoir une vie plus normale avec un cadre familial et des choses plus, on va dire, installées, des relations. Mais franchement, Frédéric, quel courage. Et peu importe la décision que vous prendrez au bout, je pense que vous pouvez vous dire que vous avez vraiment tout fait. Même si les choix au départ n'étaient pas les bons de la personne avec qui vous avez fait votre vie, mais qui pouvait imaginer un tel scénario, franchement.
Personne.
Donc, bravo à vous. Et voilà, franchement, j'aurais pas eu ce courage, moi, je vous le dis, certainement. Donc, vraiment, ça. En tout cas, on peut voir, Alice, pour conclure sur ce sujet-là, à quel point l'aliénation peut avoir des conséquences, mais dramatiques, hein, parce que là, c'est un cas dramatique. Au point d'arriver quand même à plus du tout reconnaître le parent, même en tant que.
Dans son statut.
Voilà, en tant que parent, en tant que mère ou père, peu importe. Ça, c'est fou. Vraiment, c'est un filet qu'il y a devant les yeux. Incroyable, quoi, incroyable.
Et c'est pour ça aussi que je voulais la remercier d'être venue aujourd'hui parmi nous, déjà pour le courage de nous parler de cette histoire, et surtout pour, parce qu'on avait discuté auparavant, pour le message aussi, si qui que ce soit vit une telle situation, même si elle n'est pas identique, cas d'aliénation parentale, c'est vraiment, c'est facile ce que je vais dire, mais vraiment de déculpabiliser, qu'on en est en aucunement responsable de la malveillance du parent qu'on a en face.
On peut se le demander quand même.
Mais n'hésitez pas, voilà, vous voyez, vraiment les personnes, voilà, qu'elles osent en parler. Voilà, si c'est difficile dans le côté personnel par rapport au cercle familial, amical, mais voilà, après ça
non,
fait
mais c'est
partie.
Dur de déculpabiliser quand même, j'imagine. Sais, hein, parce que quand on se dit, mon Dieu, c'est moi qui ai choisi cette personne, c'est moi qui ai construit ma vie avec lui, j'ai créé un lien infiniment éternel parce que j'ai fait des enfants avec lui ou avec elle. Et c'est vrai qu'on tellement...
Je sais, mais on n'est pas responsable de la personne malveillante qu'on a en face de soi. Je veux dire, si on parle, on en a déjà parlé, hein, si on tombe sur un pervers ou quelqu'un qui est pathologique, c'est cette personne-là qui est venue nous choisir parce qu'elle avait une stratégie à mettre en place. Donc oui, c'est qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette histoire, qu'est-ce qu'il faut en faire pour continuer à avancer au mieux. En aucun cas, il y a une part de responsabilité de la victime. Parce que oui, là, on parle de victime.
Ah, oui.
Donc, c'est doser, c'est difficile pour vous de garder tout ça. Voilà, il y a des spécialistes, des professionnels, justement, qui sont neutres et dans le non-jugement et qui peuvent accueillir, on va dire, vos histoires avec bienveillance et au moins pour permettre de continuer à...
Et pas être seul.
À avancer, ouais.
Oui, parce qu'on peut voir quel combat pour Frédéric ça a pu être d'être aussi un peu, je pense, seul, parce que...
Oui, tout à fait. Bah, je soutiens Alice. J'ai commencé à me faire suivre par un professionnel de suite, en fait, dès l'enlèvement, le deuxième, en 2012. En 2012, il était hors de question que je reste seule. Je sais pas comment, hein, parce que je l'avais pas, j'ai pas reçu de formation. Mais je me disais, Fred ne reste pas seul, parce que ça, c'est trop lourd.
Bien sûr.
Tes amis, ils pourront rien pour toi. Tu vas pas aller te déverser dans leurs oreilles, les pauvres, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes. Donc, instinctivement, j'ai commencé à voir un psychologue. Et donc, ça fait depuis 2012 que je me fais suivre. Il est hors de question de rester seul.
Et de vivre seul, ça.
Ça m'a fait un bien fou. Ça a été une béquille énorme, ces consultations.
Vous pensez que vous auriez peut-être pas pu tenir aussi bien ?
Je sais pas. Je veux même pas savoir. J'ai pas essayé. Je me suis dit, Fred, si tu veux continuer à vivre une vie normale, à te lever le matin et pouvoir faire ta vie, ton quotidien.
C'est ce qu'il te faut.
Alors tu te fais aider. Tu cherches pas à comprendre, tu te fais aider. On ne reste pas seul. Je déconseille à qui que ce soit de rester seul dans un problème. Ça a été super, ce suivi psy. Ça m'a pas pris toute ma vie. C'est une heure par mois. Et depuis le début, en fait, depuis 2012, c'est une heure par mois. Donc c'est pas, je passe pas ma vie chez le psy.
Oui, vous êtes pas tous les jours chez le psy,
par contre, 7 heures par mois, cette heure-là, elle m'aide pour tous les autres jours et pour tout le temps. C'est une béquille.
Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est le message de la fin. Franchement, Frédéric, vraiment, vous faites preuve de grand esprit et de grande intelligence. Franchement, bravo à vous, en plus du courage, parce que vous avez une démarche, elle a un recul énorme, c'est hallucinant. Vous me sciez. Franchement, vous m'avez scié aujourd'hui, vous donnez une grande preuve de courage, de grande intelligence. Et franchement, j'ai envie de vous souhaiter franchement que ce courage il vous soit encore bien présent, parce qu'il en faut pour que vous arriviez à avancer dans ce chemin. Et j'espère qu'un jour, eh bien, cette aliénation peut-être pourra un petit peu s'atténuer.
L'avenir le dira si je retrouve mes garçons un jour ou l'autre.
L'avenir le dira. On se tiendra informé de tout ça, parce que franchement, on a envie que ça soit comme dans les contes de fées, que ça se termine bien. Merci en tout cas, Frédéric,
merci
d'avoir cet immense courage d'avoir été ici aujourd'hui, d'avoir témoigné. Alice, merci encore aussi pour votre émission, pour avoir instruit encore un très beau sujet, parce que voilà, avec cette femme courage qui était là aujourd'hui, et quelle chance qu'on a eu d'avoir Frédéric sur ce plateau. On se retrouve bientôt. Alice, vos coordonnées comme ça, si on vit malheureusement une situation comme celle-là, au cas où. Voilà.
Moi, c'est dérangeant de mettre en avant par rapport à
la non, force, mais parce que vous êtes là, je tiens à le répéter, c'est pas pour faire de la publicité, c'est parce que, de toute façon, on me le demande à moi, après, donc en même temps, ça m'arrange. Et c'est aussi parce que vous êtes aussi un pont, Alice, entre certaines situations et entre aussi des personnes, des autres professionnels qui peuvent vous être aussi conseillés, notamment de la part d'Alice. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour ça qu'on met toujours en avant Alice, parce qu'Alice, c'est vraiment notre vecteur, c'est notre bienfaitrice.
D'accord. Donc dans ces conditions-là, j'accepte.
Ah oui, non,
donc
vrai.
Vous pouvez me joindre au 06 48 68, 72, 79, 97. Je suis installée sur Saint-Cyr-sur-Mer. J'ai également un cabinet sur Avignon. Donc, soit vous pouvez m'appeler ou me contacter via mon site Facebook Alice Lecomte Psychanalyste.
Merci Alice. On vous souhaite une bonne soirée à vous tous, chers auditeurs. Merci encore à vous Frédéric.
Merci
et,
à vous.
Et, à la semaine prochaine
et un beau
Alice.
Week-end.
Merci à vous aussi.
Au revoir.